réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour, good morning à toutes et à tous. Nous sommes le Friday 17 juin. Merci de vous réveiller avec Another Day is Possible. Et si je parle anglais avec mon anglais de bon matin, c'est bien parce que sur France Culture, ce week-end, on sera très British. On est déjà installé dans les studios de la BBC. Dans un instant, enfin dans une demi-heure, on retrouvera Guillaume Erner en direct de Londres. Et si on a décidé d'aller voir nos amis britanniques ce week-end, c'est bien sûr pour vivre avec eux un week-end très important, Brexit or not Brexit. Les Anglais resteront-ils dans l'Europe ou pas? C'est la question de ce week-end. Le grain à moudre et les matins sont consacrés, bien sûr, à cette question cruciale. Et moi, cet effet, pour bien commencer ce week-end londonien, je serai aux alentours de 6h15 avec la dessinatrice Posy Simonds. Mais tout d'abord, on commence bien sûr par notre série consacrée au Shaddock. Depuis lundi, Sébastien Denis nous raconte l'épopée Shaddock, une manière de saluer son livre que je vous recommande vivement, paru aux éditions de Lina, Les Shaddock, histoire esthétique et pataphysique, et aussi, surtout d'ailleurs, si vous habitez dans le sud, pour saluer l'exposition, une grande exposition autour des Shaddock qui se tient au MIAM, le Musée International des Arts Modestes de Sète. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec Un autre jour est possible.
À gauche du ciel, il y avait la planète Shaddock.
Les Shaddock, analyse d'un phénomène télévisuel unique par Sébastien Denis. Bonjour Sébastien Denis.
Bonjour.
Alors, on a parlé des influences littéraires, artistiques, visuelles, on a parlé de l'époque des Shaddock, et si aujourd'hui on analysait le contenu des Shaddock? Alors on a bien compris, si on a écouté cette série depuis lundi, que les Shaddock c'était tout sauf la voix de la France.
Absolument.
Alors, si on partait des voix des Shaddock, comment ne pas parler de Claude Pieplu?
Oui, c'est vrai que Pieplu, bon, tout le monde pense à lui, en fait, quand on pense Shaddock, parce qu'il est la signature, d'une certaine manière, au niveau du son. Hein, je pense qu'on pense même avant la musique concrète, avant la musique de Robert Cohen-Solal, dont on a déjà parlé, il y a cette voix, qui est une voix qui est très intéressante, parce qu'elle est porteuse, en fait, de tout un tas de significations, parce que Pieplu est vraiment un génie dans sa manière de moduler.
Et il est connu à cette époque,
il fait du théâtre. Il est connu, oui, c'est un comédien qui est réputé. D'ailleurs, il se plaindra ensuite un petit peu d'avoir été réduit à cette voix des Shaddock que tout le monde connaissait. Et souvent, il a été recruté en fait pour faire des voix Shaddock, pour des pubs, etc. Donc ça le fatiguait un peu. Mais c'est quelqu'un qui va surtout avoir un immense talent, qui est de jouer différents rôles. C'est-à-dire que quand il prend la parole, il va avoir différents rôles. En même temps, c'est un professeur. C'est-à-dire, c'est comme un professeur d'université qui est en chaire et qui fait l'histoire des Shaddock. C'est comme si on avait l'historien des Shaddock. En même temps, d'une minute à l'autre, il peut passer sur un registre qui est celui, par exemple, du sport, comme s'il faisait un chroniqueur sportif ou Léon Zitrone, si vous voulez. Il va pouvoir aussi être sur le registre du général de Gaulle.
C'est-à-dire que lui aussi, il est dans l'expérimentation, comme toute l'équipe des Shaddock.
Absolument, absolument. Alors lui, en fait, il a une très grande latitude. Jacques Rouxel, donc le créateur des Shaddock, écrit des textes, avec une très grande difficulté d'ailleurs. C'est quelqu'un qui était totalement bloqué par l'écriture. Et il les donne à Claude Pieplu le matin même, en général, de la session. Et Pieplu s'amuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de directive, il fait ce qu'il veut. Donc évidemment,
il réinterprète
ce texte et il donne justement des inflexions qui n'étaient pas forcément écrites à la base par Jacques Rouxel.
En ce temps-là, donc, Comme vous le voyez, on pouvait très bien naviguer en bateau dans le cosmos, à condition, bien entendu, d'emporter son eau. Mais par endroits, malheureusement, le cosmos était percé. De l'eau, fatalement, on en perdait. Et quand il n'y avait plus d'eau sous le bateau, eh bien évidemment, on sombrait. Pour la remplacer, il fallait emporter d'énormes provisions d'eau et souvent, il y avait plus d'eau dans le bateau que sous le bateau. Si bien qu'il y avait des Shaddocks qui périssaient noyés sans même que le bateau coule.
Est-ce que tous les propos de Jacques Rouxel, là on vient d'entendre Claude Pieplu, est-ce qu'ils renvoyaient à des situations politiques, sociales, économiques, culturelles qui se passaient en France, dans cette France-là, c'est-à-dire une France prise par tous les courants de la contestation? On est vraiment à la veille de 1968, quand la série commence à être diffusée à l'ERTF.
Alors je crois qu'il faut faire la différence entre ce que lui a voulu faire,
Et comment les autres
l'ont analysé. C'est très important, effectivement, de faire cette différence avec ce qu'on peut en dire aujourd'hui. À l'époque, je le rappelle, on l'a dit dans les émissions précédentes, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas faire de politique. Il ne souhaitait pas montrer des personnages de gauche ou de droite ou quoi que ce soit. Il voulait faire rire le public. C'était vraiment quelque chose de très simple, son propos. Maintenant, évidemment, tout de suite, dès 68, on a vu, par exemple, des fresques apparaître, où on avait les Shaddocks portraiturés en ouvriers et les gibis qui portraiturés en patrons. Donc là se passe une inversion, puisque normalement les Shaddocks étaient les méchants, hein, dans la première série, et les gibis étaient les bons, c'est comme ça que le disait en tout cas Jacques Rouxel. Et là on a une inversion dans la rue, et qui se joue évidemment au moment des événements de mai 68. Et ensuite il va jouer là-dessus, et du coup dans la deuxième série, surtout dans la troisième série, les gibis sont les méchants. Donc là, évidemment, il y a une part de patronat, si vous voulez. C'est-à-dire que les gibis qui étaient les gens innovants, inventifs, qui étaient les Anglais, en gros, hein, gibis, c'est Great Britain, eh bien, ça devient les méchants, ça devient les exploiteurs. Donc c'est tout un discours un petit peu marxiste, si vous voulez, qu'on retrouve là-dedans. Et au contraire, les Shaddocks, qui étaient des crétins finis, deviennent des gens qui sont des exploités, tout simplement. Donc là, je pense que lui-même s'est rendu compte de ça et a changé, a fait une sorte d'inversion de valeur au sein de la série. Maintenant, en dehors de ça, je pense qu'on peut faire différents types de lectures, bien sûr. On peut faire une lecture de type sociologique de ce que présentent les Shaddocks. Et là, c'est la question du travail, de la pénibilité du travail à la chaîne, hein, puisqu'évidemment on a les usines Renault, on a tout ça, on a un contexte évidemment dans lequel, c'est pas nouveau, hein, bien sûr, on avait ça avec les temps modernes, hein, de Chaplin, la question du travail à la chaîne, mais bien sûr que d'un point de vue sociologique, on peut faire une projection de ces Shaddocks qui sont aliénés par le monde du travail. Hein, ça c'est une lecture de type sociologique qui est tout à fait envisageable, et qui, à nouveau, hein, je l'ai dit, a été envisagé très concrètement par les gens qui ont fait mai 68. Une deuxième possibilité, sans doute, c'est peut-être une vision historique, c'est-à-dire quelle société nous présente les Shaddocks, hein, finalement, quand on analyse la société. D'un côté, on a les gibis qui donc sont, en gros, de riches, des riches, hein, qui vivent dans l'oisiveté, hein, qui s'amusent, qui font de la musique, qui sont intelligents. Donc on va dire qu'on est là face à une classe supérieure, et puis on a une société finalement qui est celle des Shaddocks, qui est plutôt une société d'ancien régime, qui est une société qui est donc là, on peut imaginer aussi une projection de la France de cette période-là, mais une France où on a le devin plombier par exemple, hein, qui est le sorcier des Shaddocks, qui évidemment fait penser à une figure religieuse, hein, d'autorité religieuse, le chef Shaddock, qui fait penser bien sûr à une autorité politique ou à la royauté. On a le marin Shaddock, qui peut être vu comme le portrait de Rouxel lui-même, qui avait une passion pour la marine, mais qui peut aussi être vu comme l'armée, comme représentant l'armée, hein, avec une certaine ambivalence. Donc on voit bien que là, on a aussi le scientifique avec Shaddocko, hein, l'espèce de scientifique fou de la bande des Shaddocks. Mais on a surtout, derrière tout ça, derrière cette bande, finalement, d'oligarques, on a une population Shaddock atterrée, consternée. Donc on peut très bien, d'un point de vue historique, on va dire, faire une projection de ce type-là, c'est-à-dire France d'ancien régime, en tout cas une France évidemment républicaine, mais qui vit quand même sur des acquis qui sont ceux-ci.
Mais au-delà de cette grille politique, marxiste, bien sûr, parce que c'est l'époque. Vous rappelez dans votre ouvrage, Les Shadocks, Histoire, Esthétique et Pataphysique, qu'une des journalistes du Monde a tout de suite fait une lecture beaucoup plus géopolitique de la série. Hein. C'est une journaliste du Monde qui s'interrogeait déjà à l'époque, y a-t-il lui ou non une allusion au bloc qui se partage le monde, au champ de pétrole qu'on se dispute, au destin des fusées, y a-t-il lui ou non des subtiles allusions politiques, et voyez comment on peut couper les cheveux en quatre, le dessin est-il pro ou anti-Amerloc, pro ou anti-URSS, et sait-on jamais UNR, socialiste ou gauchiste. Et en même temps, c'est bien vu.
C'est très bien vu, et c'est d'ailleurs c'est la deuxième partie, on va dire, de cette lecture historique qu'on peut faire. C'est bien sûr la lecture géopolitique. On est face à deux peuples qui sont en train de faire la course, qui est une course à l'espace, puisqu'il s'agit pour eux, évidemment, de créer une fusée et de quitter leur planète pour aller, en l'occurrence, vers la Terre. Et bien sûr, à ce moment-là, on ne peut que faire le parallèle avec la réalité de la recherche et de la course à l'espace qui se passe entre URSS et États-Unis. Donc la lecture que fait cette journaliste est très juste. Et il y a beaucoup de lecteurs qui, d'ailleurs, ont fait ce même type de lecture. Donc c'est une lecture qui semble assez évidente. Hein, alors par contre, il y a une lecture qui est peut-être moins évidente, qui est une lecture, on va dire, davantage psychanalytique. C'est-à-dire que là, c'est une lecture qu'on peut surtout faire en regardant la quatrième saison, d'ailleurs, qui est un petit peu mal aimée, mais qui est quand même très intéressante. Visuellement, elle ne ressemble pas aux autres. Mais là, je pense, se dit un certain nombre de choses qui ne s'étaient pas dites avant, et que Rouxel, finalement, solde un petit peu dans cette dernière saison. C'est sa propre angoisse existentielle. C'est-à-dire qu'effectivement, son angoisse d'humain, là, il la projette complètement, et notamment, il travaille et il crée des personnages qui s'appellent les angsts, hein, par exemple, avec un Z. Donc, évidemment, c'est cette question de l'angoisse qui est présente, la question de la disparition du monde. Donc c'est vraiment des questions d'angoisse existentielle, de doute existentiel qui rétroactivement peut très bien marcher, bien sûr, sur tout le reste de la série, sur les trois autres saisons. En ça, effectivement, les Shadocks nous tendent un miroir, et chacun qui a un miroir fatalement déformant, puisque chacun, finalement, voit les Shadocks à l'aune de sa propre existence, de sa propre conception du monde. Donc évidemment, chacun pourra la lire dans un sens ou dans un autre. C'est à la fois la force, peut-être en même temps la faiblesse de ces formes allégoriques, que de pouvoir être lu dans tous les sens possibles, hein, et d'être finalement aussi potentiellement instrumentalisable ou instrumentalisé de manière très différente.
Sébastien Denis, vous le savez, il y a une grande exposition autour des Shadocks à 7 au Musée des Arts Modestes. Donc ce soir, le vernissage, demain l'ouverture, et une expo qui va durer tout l'été. Donc on fête cette série mythique, mais on oublie de dire que en réalité, s'il fallait enlever cette parenthèse Canal+, en 2000, qui rendait plus hommage à Jacques Rouxel et à la série déjà devenue culte, les Shadocks n'ont tenu que 3 saisons. Pourquoi ils se sont arrêtés ? Pourquoi on a arrêté cette série ?
Alors, la série s'est arrêtée pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le service de la recherche ne souhaitait plus vraiment développer les Shadocks, parce que les Shadocks fonctionnaient en fait comme une série commerciale, et donc ça quittait finalement le champ de la recherche, hein, de ce qu'était le service de la recherche. Mais surtout, je crois, ça s'est arrêté parce que le service de la recherche s'est arrêté. C'est-à-dire qu'en 1974, suite à l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, et au début de l'explosion, si vous voulez, de l'ORTF, eh bien, le service de la recherche va disparaître. Et donc, avec lui, va disparaître toute cette créativité, toute cette aventure esthétique et créative qu'on a pu voir au sein du service de la recherche. Et je dirais tout simplement que les Shadocks en faisaient partie. Hein. Donc ils ont sombré en même temps que le navire lui-même. Et d'ailleurs, ils ont été diffusés très exactement au moment, c'est-à-dire entre fin 1974 et début 75, où l'ORTF est mort.
Mmh. Est-ce que cette fin des Shadocks était commentée comme on a pu commenter la fin des Guignols avec l'arrivée de Vincent Bolloré aux commandes de Canal+. Est-ce que ça a été un phénomène médiatique qui renvoyait à une situation socio-politico-économique du pays ?
Alors pas tout à fait, parce qu'en fait à ce moment-là, les Shadocks étaient célèbres. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les problèmes qu'il y a eu en fait pour la première saison en particulier. Bien, ces problèmes n'ont pas vraiment eu lieu pour la deuxième. Il y a eu moins de scandales, beaucoup moins sur la deuxième saison hein, en 69, diffusée en 70. Et 2 ans plus tard, en fait, ou 3 ans plus tard, même quand la troisième saison a été faite, les Shadok étaient connus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de problème. Donc finalement.
Ça n'empêche pas le parallèle, parce que les Guignols aussi, ils sont connus.
Oui, non, mais je veux dire, il n'y avait plus le vent de folie qu'il pouvait y avoir autour des Shadok, en fait, au tout début. Et du coup, leur disparition est passée relativement inaperçue, parce qu'elle a été noyée à nouveau dans la disparition générale de l'ORTF.
Alors, qu'est-ce qui reste des Shadok, sinon une nostalgie? Est-ce que, vraiment, en revoyant cette série, puisqu'on peut avoir l'intégrale des Shadok avec des bonus, d'ailleurs, très importants, dans ce très joli coffret édité par Lina, qu'est-ce que ça raconte de l'époque, Sébastien Denis, pour terminer cette série?
Bah, je pense qu'il faut garder les Shadok comme une sorte d'ouverture sur les possibilités de l'audiovisuel. C'est-à-dire que c'est un objet effectivement unique, qui le restera vraisemblablement, mais qui inspire. C'est un objet qui, on voit bien quand on en parle aux animateurs aujourd'hui, c'est un objet qui inspire. Bon, on ne pourrait plus produire les Shadok. C'est ça le problème, d'une certaine manière. C'est que les Shadok ont été produits dans le contexte du service de la recherche qui permettait quelque chose d'unique, mais malheureusement, on ne pourrait plus les produire. Donc maintenant, ça, même sans que ce soit de la nostalgie, je pense qu'il faut plutôt les garder comme un marqueur des possibilités qu'a donné l'audiovisuel public de créer des formes audio et visuel révolutionnaire.
Les Shadok, histoire esthétique et pataphysique, c'est le titre de votre ouvrage édité par Lina. Sébastien Denis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous toute cette semaine pour nous parler des Shadok, analyse d'un phénomène télévisuel unique. La série est désormais disponible dans son intégralité en passant par franceculture.fr. Tout est à votre disposition, podcast, écoute en ligne, enfin bref, tout, y compris la riche bibliographie autour de la série. Merci beaucoup, Sébastien Denis.
Merci à vous.
France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem.
Welcome in London.
Une journée à Londres. Dans un instant, on retrouvera à partir des studios de la BBC Guillaume Erner. L'Angleterre, Brexit or not Brexit, programme spécial. On va le commencer avec le sourire et l'humour. Depuis les Monty Python, on n'avait pas autant ri. Merci, Posy Simons, d'avoir accepté notre invitation. Posy Simons, on vous retrouve. Merci donc d'être là, vous nous réconciliez avec l'humour british, si fin, si féroce, si raffiné. De Noël Graphique sort la compilation de vos planches de la scène de la vie littéraire, parue entre 2002 et 2005, tous les samedis dans le supplément littérature de The Guardian. Ça s'appelle Literary Life, je prononce bien ?
Oui, c'est bien, Literary Life, okay. Oui, c'est très bien.
On voit mal ici, en tout cas en France, par exemple Le Monde, des livres offrant une tribune à un dessinateur ou une dessinatrice pour tourner en dérision le monde de la littérature. C'est très drôle, c'est très bien vu, et comme toujours, si bien dessiné. Alors, la bonne idée que vous avez eue, c'est de ne pas parler des livres, enfin pas de leur contenu, pas du style, mais de vous intéresser plutôt aux écrivains, aux éditeurs, aux critiques, au public, aux petites combines, aux jalousies des uns, à la mesquinerie des autres, aux petites misères quotidiennes, aux tournées promotionnelles dérisoires, autant de portraits types et plusieurs personnages, dont deux qui sont récurrents et qui résument d'ailleurs très bien les temps d'aujourd'hui dans le monde de la littérature. L'agent littéraire, avec son chapeau feutre, cigarette et gabardine, et puis un docteur médecin spécialisé dans les pathologies d'écrivains, ça existe vraiment, Posy Simons?
Pas vraiment, mais il doit exister, parce qu'il s'appelle Dr. Derrick. Il prend une oreille très sympathique aux plaintes des écrivains, dont il y a beaucoup, beaucoup. Il y a des maladies pour les écrivains, comme les blocages. Et puis l'angoisse de la page blanche, c'est très sévère ça.
Parce que vous connaissez ça aussi, vous.
Oui, oui, moi aussi. Et les écrivains, apparemment, ils passent des heures en train de mordiller un crayon. Mais c'est sévère, ça.
Ouais, c'est sévère. Oui.
Donc, ils ont besoin d'un docteur et une infirmière très belle qui s'appelle Nurse Tozer, qui donne des conseils.
Mais comment les écrivains, le monde littéraire a réagi à vos chroniques? Parce qu'elles sont féroces quand même.
J'ai lu des mails et des lettres. Ouais. Ils sont contents parce que vous savez que les écrivains, ensemble, ils râlent contre leurs éditeurs, leur couverture qui ne va pas.
Le public qui ne vient pas des fois.
Oui, la distribution de ces livres et tout ça. Leurs livres, c'est... oui, j'ai reçu des lettres. Quelquefois, j'ai reçu un... C'était un peu cruel.
Moi, en lisant votre livre, je me posais la question, est-ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui l'équivalent en France dans un supplément littéraire? Et je vous assure, Pussy Simon, je ne pense pas.
Ça n'existe pas.
Mais non.
Ça veut dire qu'il n'y a plus de place ou...
Non, ça veut dire que cet humour ne passe pas.
Ah, ne passe pas, parce que c'est un peu trop.
Ouais.
Oh là là.
Mais vous vous moquez des éditeurs, vous moquez des
éditeurs,
des écrivains, des attachés de presse, de tout le monde.
Je crois parce que c'était dans un quotidien, ça a marché. Peut-être si c'était dans un journal comme Times Literary Supplement, peut-être pas. Mais je crois que tout le monde...
C'est le journal qui vous a demandé, c'est The Guardian qui vous a demandé de faire cette chronique?
Oui, c'était une commande de l'éditrice du supplément littéraire.
Qui connaissait votre travail?
Oui, déjà, parce que mon roman graphique, d'abord, était publié en feuilleton.
Ouais, oui. Chez eux.
Chez eux.
Tamara Radu.
Tamara Radu, et puis avant ça, Gemma Bovary.
Ok. Oui. Et dites-moi, est-ce que c'est elle qui vous a demandé de secouer ce monde de la littérature, de vous moquer d'eux de cette manière? Ça, c'est vous, c'est votre style.
C'est mon style. Ils ont bien compris, je crois.
Bon, alors, je vais vous faire une interview spéciale littérature, spéciale livre. Je peux?
Ouh là là.
Pendant ce temps-là, vous pouvez dessiner, parce que vous savez, dans cette émission, on laisse les dessinateurs dessiner, on retrouve leurs dessins à la fin de l'émission sur le site, bien sûr, franceculture.fr, à la page de l'émission Un autre jour est possible. Quel est votre auteur anglais préféré, Pussy Simons?
Ça, c'est difficile parce que il y a des auteurs de 19e que je l'aime beaucoup, comme George Eliot et avant ça, Jane Austen, les femmes, mais Charles Dickens, tout, et avant ça, Swift, mais de nos jours, j'aime bien Ian McEwan, Julian Barnes, like William Boyd.
On va en parler. Ouais. Entre Agatha Christie et Oscar Wilde, qui auriez-vous aimé choisir pour aller vous échouer dans une île déserte?
Oscar Wilde, bien sûr. Parce qu'il est, il aimait bien les femmes. Et donc, je voudrais poser des questions, absolument. Comment, quand il était en prison à Reading, qu'est-ce qu'il a lu? Qu'est-ce qu'il en pense? Et moi, je peux dire que maintenant, il est très, très célèbre en Angleterre.
Alors que passer des vacances seul avec Agatha Christie, bof.
Je trouve ça peut-être un peu sobre.
Quel est le dernier roman que vous avez lu et aimé?
Parce que j'ai lu des trucs sur la Grande Guerre en ce moment, un tas de livres sur la Grande Guerre, pas de romans. Et c'était le dernier, était quelque chose de Jane Gardam.
Du coup, vous avez aimé.
Oui.
Avez-vous des affinités avec Julian Barnes?
Oui.
Alors justement, quel genre d'affinité?
Ah oui, c'est un ami.
C'est un ami parce que vous aimez ses romans ou vous lisez ses romans parce que c'est un ami?
Je veux dire que sa femme était mon agent. Donc, c'est un ami depuis très longtemps.
Et donc, il vous envoie à chaque fois ses livres et ses romans?
Oui.
Et alors?
Oui, j'ai une bonne collection.
Lequel préférez-vous des romans de Julian Barnes? Par exemple, moi, Le perroquet de Flaubert, je peux le relire tous les étés, j'adore.
Oui. Aussi, ouais. J'aime bien Gilbert et George, ouais. C'est très bien. Le dernier, c'était sur la morte, c'était très triste, mais quand même très intéressant. Ça m'a beaucoup touchée, oui.
Avez-vous pris un thé un après-midi avec Hanif Koraïchi?
Un tasse de thé?
Oui.
Non, jamais, mais j'aimerais bien. Avec Hanif Koraïchi, parce que j'aimais bien ses livres.
Mais j'ai pas compris, mais vous êtes suffisamment connu en Angleterre, il suffit de décrocher votre téléphone.
Oui, et de dire.
Et vous ne l'avez pas fait.
Bonjour Hanif, on ne s'est jamais rencontrés, mais.
Mais j'ai lu vos livres, vous les avez tous lus?
Pas tous, pas tous, mais il est très bon comme écrivain. Mais pour inviter chez quelqu'un que je ne connais pas, c'est un peu osé, non?
Parmi tous les auteurs que je vous ai cités depuis le début de cette interview, est-ce qu'il y en a que vous avez utilisé dans vos histoires assez coquines où vous vous lancez des piques? Est-ce qu'il y a eu des...
Je crois qu'il y a une bande dessinée avec quelqu'un qui rassemble Will Self. Qui ne dit rien, mais il était là, mais c'était il y a, 10 ans, il était mal rasé, il était en train de fumer, et dans son blouson noir. Son nez est différent, et ses oreilles, et tout ça.
Quand vous êtes invité dans un plateau de télé ou dans une émission de radio, comme là ce matin, avec des écrivains, en tant qu'auteur de BD, vous vous sentez à l'aise, égal aux autres, un peu au-dessus d'eux? Ou alors, plutôt intimidé par eux?
Parce que moi, je dessine. Ouais. Je dessine. Et je suis un peu, en anglais, on dit une mouche sur au mur. I'm a fly on the wall. Et je crois pour les vrais écrivains, c'est une vie solitaire et c'est pas le travail à la mine, mais quand même, c'est dur.
Enfin, pour terminer, Posy Simon, vous avez été vraiment délicieuse ce matin, très gentille. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que les Français ne comprennent pas l'humour anglais et qu'il faut faire attention, parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous racontez dans vos histoires. Vous êtes vraiment sans pitié, vous êtes féroce, et c'est ça qu'on aime.
Non, je suis un pussycat. Je suis pas une tigresse, non. Mais je crois que les Français comprendraient rien ce que je fais.
Merci d'être venu ce matin, en tout cas.
Merci bien.
Et le dessin de Posy Simon, c'est quoi votre dessin, en fait?
C'est la femme qui, parce que j'aime bien les petites librairies. Et c'est la femme qui s'appelle Penny Wintergreen. C'est une femme un peu grosse.
Si vous aimez l'humour fin et british de Posy Simons, Les scènes de la vie littéraire, c'est édité chez nous, chez De Noël Graphique. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri. Merci.